Bonjour à tous. Alors, il n'y a plus beaucoup de suspense, hein, c'est déjà écrit là, le sujet de la prédication. J'aimerais vous dire que, oui, en effet, notre liberté est menacée. Nous sommes en danger, en tant que chrétiens, en danger du faux. Il y a le vrai, il y a la vérité, Jésus, il a bien dit, je suis la vérité, mais il y a aussi le faux. Je vous donne un exemple concret, réel, d'aujourd'hui, ou plutôt d'il y a quelques semaines. Une jeune fille de notre église, à peine majeure, venait à l'église depuis un peu plus d'un an, et elle avait envisagé le baptême. Elle avait compris ce qu'était l'évangile, elle avait donné son cœur au Seigneur, enfin, vous mettez les mots que vous voulez, mais elle suivait vraiment, elle allait bientôt se faire baptiser. Et un jour, elle se promène à Paris, et elle tombe sur des chrétiens. Vous voyez, il y en a partout des chrétiens qui évangélisent, qui parle de Dieu, qui essaye de convaincre. Et elle tombe sur ces chrétiens un petit peu spéciaux. Et puis, ils ont commencé à lui poser des questions sur sa foi. Et puis, les questions étaient un petit peu embarrassantes. Elle ne savait pas trop quoi répondre. Et puis, ils lui ont dit, mais en fait, c'est bien. Mais il te manque quelque chose. Puis, il lui manquait un petit truc, puis un autre petit truc. À tel point qu'elle a fini par m'écrire un message sur WhatsApp, une tartine, en disant, voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit cela. Puis ça remettait un peu en question sa foi, en fait. Elle avait l'impression qu'il lui manquait plein de choses, comme si elle était complètement déboussolée. Et en fait, elle est tombée sur des gens, je ne dirais pas qui, d'ailleurs je ne me rappelle plus le nom exact, mais je l'avais regardé sur Internet, c'était pas joli joli. Mais en fait, ça ressemblait vraiment. Ils avaient la Bible, ils parlaient de Dieu, ils parlaient de Jésus, donc ça ressemblait tellement que ça, c'était peut-être difficile à discerner pour une toute jeune chrétienne. Vous avez déjà entendu cette image que il n'y a pas plus ressemblant à un vrai billet qu'un faux billet qui est presque pareil, en fait. Entre un faux et un vrai, quand c'est un pro qui essaye d'imiter un vrai billet, bah, ça ne va pas être grossier, quoi. Il ne va pas prendre des billets de Monopoly pour aller acheter quelque chose dans un magasin, ça se verrait trop. Donc il va vraiment faire, et puis il va s'arranger pour que le papier soit le même, il va essayer de faire le plus de détails possible. Donc le danger qui nous guette, ça n'est pas de tomber sur quelque chose qui va être complètement différent, mais c'est de tomber sur des gens qui vont nous enseigner. Alors aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant. YouTube, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore,
Instagram,
enfin, il y a plein d'endroits, en fait. Oui, voilà, Instagram, des stories, on tombe sur des trucs, puis on peut écouter, puis après un autre. Donc il y a plein de sources d'enseignement, en fait. Donc un des dangers, c'est justement d'avoir quelque chose qui ressemble vraiment à la vérité, mais c'est juste un tout petit peu différent, puis on s'en écarte un peu. Et c'est justement ce qui est arrivé aux Galates, et l'apôtre Paul leur écrit. Alors aujourd'hui, j'ai prévu uniquement le chapitre 5, mais je vous dis un peu au début, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est jamais à ce qu'il paraît qu'il y en a. Il y en a ici ou pas? Non. Ceux qui ne lisent jamais la Bible, levez la main. Non, ça ne marchera pas. Si je disais, est-ce qu'il y en a qui lisent la Bible régulièrement? Alors là, tout le monde, ouais, oui. Ouais, oui, oui. Super. Mais il y en a qui n'ont pas levé la main quand même. Hein. C'est soit ils ne veulent pas jouer le jeu, soit ils veulent être honnêtes. Et donc, chacun son truc. Ok. Donc, dans l'évangile, dans l'épître aux Galates, en fait, l'apôtre Paul leur dit, vous aviez bien commencé. Ils avaient reçu l'évangile, ils avaient compris l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est vous êtes sauvés, vous le savez, par vos œuvres, c'est ça? Non, je teste un peu pour voir l'assemblée chrétienne des Hauts-d'Antony. Vous êtes sauvés, non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce, en fait. Vous n'avez rien mérité, vous êtes sauvés uniquement parce que vous avez eu confiance en Jésus-Christ. Donc, ils ont appris ça, ils le savent. Eh, mais malheureusement, il y a des gens qui sont arrivés chez eux et qui leur ont dit « Mais oui, c'est vrai. Oui, oui. » Et c'est ça le danger, c'est qu'ils ne sont pas venus avec des gros sabots en disant « tout cela est faux, on va vous annoncer un autre évangile ». Eux, ils ont dit « c'est le même, en fait, mais il vous manque quand même quelque chose ». Donc, tout est vrai, mais il faut aussi vous faire circoncire. Alors, rassurez-vous, messieurs, c'est la journée de la femme, c'est pas la journée des hommes, donc on va pas... Je ne suis pas venu avec un sécateur ou... Mais à leur époque, c'était le cas, il y avait beaucoup de juifs parmi les convertis, et ils ont commencé, certains, à dire, si vous voulez vraiment suivre le Christ, il vous faut aussi vous faire circoncire. Et c'est nécessaire, c'est important, c'est indispensable. Et l'apôtre Paul les a traités de fous. Il a dit, mais vous n'avez rien compris. Si vous commencez à revenir en arrière et à appliquer cela, alors vous vous trompez. Donc, la liberté chrétienne, en fait, c'est pas chercher sa justice devant Dieu en pratiquant des œuvres telles que la circoncision ou d'autres, mais c'est vivre une vie transformée par l'Esprit. Et donc, on va commencer. Alors, je suppose que c'est là qu'il faut appuyer. Oui, voilà. Donc, Galates chapitre 5, verset. On va lire tous les versets, des fois par 1, des fois par 5, 6. Je précise que c'est la seconde 21 que j'utilise. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. La liberté, c'est un grand mot. Quand on devient chrétien, on nous dit qu'on est libre. Et certains s'imaginent que libre, ça veut dire qu'en fait, on est libre de faire ce qu'on veut. Alors oui, l'apôtre Paul le dit, libre de faire ce qu'on veut. Mais il y a une différence entre la liberté telle que lui l'entend et telle que nous on l'entend. Par exemple, dans Romains chapitre 6, il dit qu'en fait, on a été libéré de l'esclavage, du péché, pour devenir esclave de Dieu. Donc cette liberté, ce n'est pas une liberté qui nous donne une licence à faire n'importe quoi et à vivre, par exemple dans la débauche, dans le meurtre ou des choses comme ça. Donc cette liberté, elle nous a été donnée. Et voyez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté, ce n'est pas juste quelque chose qui viendrait en plus de notre salut. C'est quelque chose qui en fait partie en fait. L'apôtre Paul dit bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, ne vous placez pas sous la contrainte d'un nouvel esclavage, d'un esclavage. L'apôtre Paul est en train de parler de cet esclavage par rapport à la circoncision, pour cette lettre en tout cas. Christ nous a affranchis, il nous a libérés, pardon, et affranchis, il nous a libérés de cette crainte, notamment par rapport à la condamnation qu'on a devant Dieu. Il nous a affranchis, libérés. Normalement, un chrétien sait que le Seigneur l'aime et qu'il a été sauvé. Mais ça peut arriver quand même, je ne sais pas vous, hein, mais ça peut arriver quand même qu'on se laisse un petit peu ébranler dans notre foi et qu'on se dise, est-ce que vraiment le Seigneur m'aime? Est-ce que je suis sauvé? Je ne sais pas si ça vous arrive. Et là, l'apôtre Paul dit, on a vraiment été libérés. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ce passage-là nous montre donc sur quoi je base ma sécurité devant Dieu. Le fait d'être sauvé. Est-ce que je me base sur ce que je fais, ce que je réussis à accomplir pour lui, tout le bien que je fais et tout le mal que je ne fais pas? Si je base ma sécurité là-dessus, en fait, je me trompe. Et c'est ce que sont en train de faire les Galates, en basant leur sécurité sur le fait que, si je me fais circoncire, alors ça va aller. C'est comme s'ils disaient justement, tout est bien dans l'évangile qu'on a reçu, mais il manque quand même quelque chose. Il faut encore ajouter la circoncision. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, en fait, c'est comme si vous changiez de régime spirituel. Au lieu d'être sauvé par votre foi en Jésus-Christ seul, alors c'est comme s'il fallait rajouter la circoncision. On troque la confiance qu'on a en Dieu, parce qu'on l'a entendu plus d'une fois ce matin, le Seigneur Jésus est mort à la croix, il a payé pour nous sur la croix, il a pris nos péchés. Parce qu'on a confiance en lui, en fait, on est sauvé. Et là, si on commence à dire, mais il faut quand même que je rajoute ceci ou cela, que ce soit la circoncision ou autre chose, alors on va s'épuiser On va toujours chercher à gagner notre salut. C'est comme si on était sauvé par grâce, mais qu'après, en fait, tout le reste de notre vie, il n'y a plus de grâce. Maintenant, il faut la mériter. Tu veux continuer à plaire à Dieu, il faut que tu le mérites. Vous courriez bien? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Bon, castrer, vous voyez ce que ça veut dire? On y reviendra juste un peu après, mais bon. Donc, il leur dit que l'influence qu'ils ont eue, des gens qui leur ont annoncé qu'il fallait se faire circoncire pour pouvoir finalement plaire à Dieu, être peut-être sauvé, il leur dit cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, donc elle ne vient pas de Dieu, elle vient d'hommes qui ne respectent pas l'évangile en fait. Quand il dit un peu de levain fait lever toute la pâte, il y en a qui font de la pâtisserie un peu? Ouais.
Heureusement,
hein. Donc, levain, on est moins habitué. Il y a le pain au levain. Bon, certains n'aiment pas parce que ça a un goût un peu fort. Mais c'est bon quand même, non? Ouais. Mais si vous prenez même de la levure chimique simplement. En fait, si vous avez l'idée un jour d'en mettre trop, par exemple dans la recette, il y a marqué un demi-paquet, puis tu dis, oh, je vais en mettre deux, ce sera meilleur. Deux paquets au lieu d'un demi. Bah, ça gonfle, ça explose de partout. Donc en fait, là, c'est l'idée que juste un peu de levain, en fait, ça fait gonfler la pâte. Et c'est quoi cette idée-là dans le contexte, là? Le levain, c'est positif ou négatif, à votre avis? Ouais, vous avez le droit de participer. Hein. Je sais pas, vous avez le droit d'habitude ou pas? Oui. Si, vous avez le droit. J'ai remarqué ici, vous avez le droit de parler. Donc, allez-y. Même quand je parle, vous pouvez. Hein. Donc, il dit, ouais, un peu de levain fait lever toute la pâte. En fait, le levain, c'est le mauvais enseignement, en fait. La chose mauvaise. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que ben, le plus grand danger pour nous, c'est pas quelqu'un qui viendrait avec ses gros sabots. Imaginez, j'ose, deux mormons qui passent là. Ils sont habillés un pantalon gris à pinces, chemise blanche, manche longue, peut-être cravate, un sac à dos gris. Et là, il y a marqué « Elder quelque chose ». Je sais, parce que j'en ai rencontré quand j'étais tout jeune chrétien, en fait, un peu à la même époque où je me suis converti. Il y avait des chrétiens, un pasteur, et puis deux mormons. Et en fait, aujourd'hui, mais je les repère de loin, en fait. Même rien qu'au costume, je sais « Oula, méfiance ». Mais s'ils viennent à vous, comme ça, avec le livre de Mormon qui vous en parle, ça se trouve, vous allez vous méfier, vous allez dire « c'est... » C'est gros comme une maison, quoi. C'est pas des chrétiens, c'est pas exactement comme nous. Mais si c'est plus subtil, qu'on vous fait un petit sondage dans Paris, comme je vous parlais de la jeune fille de mon église, là, tout à l'heure. C'est un sondage, ils ont des t-shirts, tu as marqué Jésus-Christ, par exemple. Jésus-Christ t'aime, ou Dieu t'aime, ou un truc. Ça paraît exactement pareil. Ils ont une Bible aussi. Tout ressemble, en fait. Et puis, il y a un petit sondage, puis truc. Puis après, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous proposent, tu devrais faire une étude biblique avec nous. Parce qu'on va te montrer, en fait. On va t'enseigner un petit peu mieux et tout ça. Puis, hop! La brebis, elle change de berger et elle va là-bas. Le danger, c'est que c'est parfois juste un tout petit peu à côté. Et là, donc, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Bon, l'apôtre Paul est sympa quand même. Il leur dit, j'ai confiance dans le Seigneur en ce qui vous concerne, qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Il est gentil de le dire, il a cette confiance, on va dire, pastorale. Mais en même temps, c'est une manière de leur dire, bon, j'espère vraiment que vous allez quand même écouter. Si vous lisez toute l'épître aux Galates, vous verrez qu'en fait, il est quand même vachement inquiet pour eux. Et il leur dit, non, mais ça ne va pas, vous avez complètement dévié, ça. Vous êtes fous. Il leur dit, même si un autre vous annonce un évangile, même si un ange vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit, rejeté. Donc il est en train de leur dire, c'est grave ce que vous faites. Bon. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Bon, après, au verset 11, quand il dit « Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision ?» Il faut bien le comprendre que, en fait, l'apôtre Paul est en train de dire « En vrai, je ne prêche pas la circoncision, moi. » Parce que toute l'épître dit qu'il ne faut pas ajouter ça. Paul le condamne. Donc, en fait, il est juste, c'est une question rhétorique, comme pour dire « Si vraiment je faisais ça, Alors à ce moment-là, pourquoi je serais persécuté par les Juifs? Puisque les Juifs de l'époque persécutaient ceux qui devenaient chrétiens et donc qui rejetaient la circoncision. La circoncision était un signe de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, un signe d'appartenance. Ben, ça ne se voit pas comme ça, hein. Physiquement, on ne le voit pas. Mais quand on sait que quelqu'un est circoncis, à l'époque, ça veut dire qu'il est juif, en fait. Donc lui, il est en train de dire, si moi je prêchais la circoncision, alors pourquoi les juifs me persécuteraient? Ça n'aurait pas de sens, en fait. Ils ne me persécuteraient pas si je faisais comme eux, en fait. Je dirais ce qui leur plaît, je ne serais pas persécuté. Mais comme je dis le contraire, eh ben, c'est pour ça que je suis persécuté. C'est ça que ça veut dire, cette phrase. Bon, le verset 12, « Puissent-ils même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous ?» Je vous ai mis la version LSG, c'est Louis II. C'est écrit « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ?» Et puis la seconde 21, celle que j'ai utilisée, c'est « Puissent-ils même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous ?» En fait, le mot « circoncision » veut dire « couper ». Dans l'Ancien Testament, quand il y a eu le début de la circoncision, il lui a dit « Tu vas couper un petit bout hein, du prépuce. » D'accord ? C'est juste un petit bout coupé. Et là, en fait, l'apôtre Paul utilise ce mot « couper », en fait. Donc, l'idée, alors certaines traductions traduisent donc plutôt dans le sens de la seconde, puisse-t-il être retranché, c'est-à-dire coupé du peuple chrétien, donc qu'il puisse être retranché. La seconde 21 traduit plutôt « puisse-t-il même se castrer », c'est-à-dire c'est plus provocant, en fait. C'est comme si l'apôtre Paul disait « Ben, s'ils veulent en couper un bout, parce qu'ils pensent qu'en coupant un bout, ça va leur permettre d'atteindre un niveau spirituel bien plus important, eh ben, ils ont qu'à tout couper. » Ouais, je vois que les ados, ça les fait rire. C'est bien, au moins l'apôtre Paul est intéressant. En fait, l'apôtre Paul est en train de leur dire, ça sert à rien, en fait. Vous êtes chrétien. Vous êtes sauvés par la foi, c'est ça l'évangile. Donc ne retournez pas à cette idée cette circoncision. Frères et sœurs, on arrive au verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. On revient à cette notion de liberté que j'ai abordée en introduction. Oui, c'est vrai, c'est à la liberté que vous avez été appelé, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. D'autres traductions disent « désirs de la chair ». Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes sauvé, non pas par les œuvres, que vous pouvez avoir une licence pour faire, licence dans le sens, une autorisation à faire n'importe quoi. Donc, il y a deux excès à éviter, deux écueils, deux problèmes, deux difficultés à vraiment éviter. C'est, le légalisme, et l'autre, aidez-moi, le laxisme. C'est-à-dire faire n'importe quoi, on s'en fout, on peut commettre toutes sortes de péchés, de toute façon Dieu il nous pardonne, il n'y a pas de problème. De toute façon on n'est pas jugé sur nos œuvres, il a dit que ce n'était pas par les œuvres qu'on était sauvés, donc on fait n'importe quoi. Et puis il y a l'autre, c'est le légalisme, c'est attention à ceci, à cela, puis toujours en train de se regarder ses pieds les uns les autres sur ce que fait l'un et ce que fait l'autre. En fait, l'apôtre Paul dit ce que vous devez faire, c'est accomplir la loi dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il encourage à l'amour les uns envers les autres. On arrive au verset 16. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, je ne sais pas si vous percevez bien dans ce passage-là, il y a comme une tension, en fait, intérieure que l'apôtre Paul décrit, en fait, entre notre nature même si on est sauvé, même si on est chrétien, même si on est bien gentil, qu'on vient à l'église, qu'on fait tout ce qu'on peut, qu'on lit la Bible, qu'on prie, notre nature humaine fait que, bah, je vais juste nommer une chose, puis vous allez me dire si vous vous sentez concerné parfois, colère. Pas du tout, hein? Ok. On va demander à ses enfants ou à son mari. Ou... Colère, orgueil. Bon, je ne vais pas en citer d'autres, mais il y a des désirs parfois, en fait, qui sont mauvais, en fait. Et avoir parfois des attitudes mauvaises, je ne vais pas dire que bah, ça va, c'est cool, c'est pas ça, mais c'est que ça arrive, en fait. On a des mauvais comportements. Mais l'apôtre Paul dit, bah, c'est les désirs, en fait, de l'esprit, les désirs de notre nature humaine sont contraires, il y a une tension. Et la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais vous, vous êtes parfait, non?
En chemin.
En chemin? Franchement? En chemin? Il n'y en a pas qui sont encore parfaits. Genre quelqu'un qui... Si, là, oui, au fond là-bas.
Parfait.
Presque, ok. Bah, je vais vous raconter... une anecdote maintenant, pour vous montrer que je sais très bien de quoi je parle quand je dis qu'en fait, on est loin d'être parfait. Avant d'être trop méchante, déjà, ça intrigue, hein, c'est fait exprès. Hein. Je ne parle pas d'une dame que j'ai rencontrée dans l'église ici, mais je parle d'une dame que j'ai rencontrée quand, avant d'être pasteur, j'étais instituteur, en fait, professeur des écoles à Dijon et dans toute la Côte d'Or. Et puis, après avoir fait un an de CE1, j'ai fait 5 ans de brigade stage. Ça veut dire que je remplaçais des gens qui étaient... C'était mon poste titulaire à moi, mais je remplaçais des gens qui étaient soit en stage, soit malades, ou ils étaient en formation, et moi, j'allais les remplacer. Donc, je changeais d'école très régulièrement, des fois une semaine là, un mois, ou des fois une journée, des fois même une demi-journée, puis une demi-journée ailleurs. C'était marrant. Moi, j'aimais bien ça. Et je me retrouve un jour à aller dans un institut, ouais, c'était pas une école classique, c'était un institut un peu dans le spécialisé en fait. Et j'arrive, donc on me téléphone à 9h, mon inspection, et on me dit d'y aller. Donc j'arrive, c'était assez loin de chez moi, donc le temps que j'y arrive, bon, bah, je tombe sur la directrice de l'établissement, et dans la cour, donc c'est elle. Et donc, vous êtes en retard. Presque pas bonjour, ou un truc vraiment sec, pète sec, vraiment. Et elle me met tout de suite au parfum, je me sens tout de suite crispé. Et franchement, je pense que je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on me rentre dedans, j'ai une de ces envies de riposter. Mais je me dis, c'est une directrice, je ne vais pas quand même... Sinon, ça craint pour mon poste, quoi. Donc, il vaut mieux être calme. Mais intérieurement, ça commence à bouillir, quoi. Puis elle m'amène jusque dans ma classe, puis elle continue à être désagréable, en fait. Puis ça se voit que c'est une mauvaise personne, en fait. Donc, je vais dans ma classe, je fais mon cours toute la journée, et puis je m'en vais. Et là, je me dis, c'était qu'une journée. C'est fini, je ne la reverrai plus. Enfin, j'espère. Et puis, quelques semaines après, l'inspection m'appelle, me dit, vous allez dans tel établissement. Oh non, c'est pas vrai, la peau de vache. C'est comme ça tout de suite que j'ai en tête cette femme-là, peau de vache. Et puis, je prends la voiture, et comme il y avait un petit peu de route, je suis là sur l'autoroute, et à me dire, en fait, je sens qu'il y a un combat en moi. Et ce combat, en fait, ça me fait penser à ça. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. En gros, attends, je vais enlever cette petite flèche qui vous agace peut-être, comme moi. Ouais, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que, ben, en vrai, moi, ma nature humaine, c'est que j'aimerais arriver là-bas, et puis j'aimerais lui dire, vous êtes une vraie peau de vache. La dernière fois, quand je suis venu, vous m'avez mal accueilli. Je vous préviens si vous recommencez. Bon, non, ça ne se fait pas, mais c'est ce que j'ai envie, quoi. Et je sais qu'il y a des paroles qui viennent dans mon cœur, ben parce que je suis quand même chrétien, hein. Donc des paroles viennent dans mon cœur qui me rappellent... Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui maudissent, tout ça. Toutes ces paroles viennent dans mon cœur, puis je me dis, oh putain, ah non, je peux pas. Alors je vous assure que pour moi, c'est impossible en fait de faire ça. Je ne peux pas bénir cette femme, je ne peux pas dire du bien de cette femme, je ne peux pas imaginer aller vers elle et lui faire un gros câlin, par exemple. J'ai qu'une envie, c'est de lui mettre des baffes, en fait. Je m'excuse pour ma franchise. Mais je ne le ferai pas, parce que ça craint trop pour mon boulot. Mais par contre, je suis dans cette attitude-là. La nature humaine, franchement, elle a des désirs vraiment contraires. Parfois, heureusement, ce n'est pas tous les jours comme ça, hein, mais parfois, c'est ça. Contraire à ceux de l'esprit. Et donc, cette femme trop méchante, là, je me dis, j'ai quelques minutes. Et en fait, je me sens vraiment travaillé comme par une force extérieure, en fait. Je pense l'Esprit de Dieu qui travaille, qui me pousse. Et tu connais la parole, non? Tu sais ce qu'il faut faire normalement. Et là, je commence à confesser en roulant sur l'autoroute. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Je veux bien, mais j'y arrive pas. En gros, j'aimerais bien, je veux bien essayer, mais je sais que je ne vais pas faire semblant, en fait. Ce n'est pas la peine. Donc, je dis, je suis incapable d'aimer cette femme. Je suis incapable de lui parler correctement ou quoi. Enfin, aide-moi. Et je commence finalement à prier pour elle. Seigneur, tu l'as bénie. Alors qu'en fait, vous savez, si quelqu'un m'avait dit, mais tu sais, cette femme, si elle est comme ça, c'est peut-être parce que... Vous en avez des collègues comme ça aussi, peut-être. Hein, vous pensez à eux en ce moment, d'ailleurs. Des collègues, des patrons, des employés, je sais pas. Et on peut te dire comme ça, mais tu sais, cette femme, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa vie, dans son couple, peut-être qu'elle a un enfant malade, handicapé, peut-être que son mari l'a abandonné, peut-être que ses parents sont en train de mourir, peut-être que... Du coup, tu devrais comprendre. Mais ça, c'est un discours... Ouais, mais moi, elle m'a fait mal, quoi. Donc, en fait, j'y arrive pas. Et là, je me mets à dire, Seigneur, j'y arrive pas, aide-moi. Et je commence à prier pour elle. Et puis, pendant les quelques minutes, peut-être une demi-heure maxi, le temps d'arriver là-bas, quand j'arrive, en fait, pendant le trajet, pouf, 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 ça s'est changé. Je vous assure, c'est pas moi, c'est l'esprit qui m'a donné de pouvoir, par rapport à cette personne, être changé. Je suis arrivé, je me reconnaissais pas, en fait. Je trouvais ça marrant, en fait. Je ne vais pas dire que je suis un tordu et méchant, hein, ce n'est pas ça, hein, n'allez pas penser ça, mais par rapport à cette situation en fait. Et je suis arrivé vraiment en ayant des bons sentiments pour elle, en l'aimant en fait. Je ne sais pas comment c'était possible, mais vous voyez, aimer quelqu'un de désagréable, eh bien je suis arrivé, et puis en fait c'est venu assez naturellement. Donc elle m'a accueilli, à votre avis comment? Bah pareil en fait, désagréable, pète sec, trop méchante. Et puis moi, en fait, j'étais tellement plein d'amour pour elle, à même pas essayer de penser c'est quoi ses problèmes ou quoi, j'en sais rien, je m'en fous, mais je la bénis au nom du Seigneur. Donc je suis arrivé, très gentiment, et puis dès qu'elle m'a accueilli, je lui ai dit « Bonjour madame », avec le sourire. Et vraiment, à l'intérieur, il y avait le sourire aussi. « Bonjour madame ». Et puis on traverse la cour comme la première fois, sauf que cette fois, je me suis arrêté et j'ai osé faire quelque chose un peu fou, en fait. Mais j'ai senti vraiment le Seigneur m'aider à faire ça. Donc j'ai dit, madame, s'il vous plaît, je peux vous dire quelque chose. Donc elle s'est arrêtée, elle n'était pas très grande, elle était devant moi, elle me regarde comme ça. Donc c'est une dame, pour préciser, elle allait partir à la retraite, je le savais, à la fin de l'année scolaire. Et donc je lui ai dit, madame, j'aimerais vous dire quelque chose. Et avec le sourire, je lui dis, la dernière fois quand vous m'avez reçu, vous m'avez vraiment reçu d'une façon désagréable. Et ce n'était pas gentil. Et je vous en ai voulu. Et après, d'ailleurs, j'avoue que j'ai parlé avec des collègues dans l'établissement. Et je me dis, je vais oser? Oui, j'ose. Je lui dis, j'étais sous la responsabilité de mon inspection quand même. Hein. Je prends un risque, une directrice d'établissement. Et je lui dis, madame, vous m'avez mal accueilli, j'ai parlé avec les collègues, et en fait, je suppose que vous savez comment ils vous appellent, ou du genre. Parce que vous avez vraiment un mauvais comportement avec tout le monde, et du coup, c'est pas bon pour vous. Alors je lui dis avec le sourire, tranquille, puis elle me regarde vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de profs qui lui ont dit ça, et je lui dis, madame, je voulais juste, si je vous en parle, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous encourager, parce que je sais que vous allez partir à la retraite bientôt. Alors les mots exacts, hein, je ne m'en rappelle pas, c'est il y a 20 ans, hein, mais c'était en gros l'idée, je sais que vous allez partir à la retraite bientôt, et j'aimerais vous dire, je pense que en vous, dans votre cœur, il y a place pour mieux que ça. En fait, vous êtes capable de faire le bien et de mieux vous comporter. Je pense que ce sera mieux pour votre famille, pour vos amis, si vous vous engagez dans une association ou quoi, je ne sais pas, mais vous pouvez faire beaucoup mieux que ça et ça sera bien mieux pour vous. Et bien, je vous assure, cette dame, elle avait les yeux qui pétillaient et ça se voyait qu'en gros, si j'étais resté plus longtemps, elle aurait dû faire comme ça. Elle m'a fait un sourire. Elle m'a dit, merci beaucoup de me l'avoir dit. C'est tout, je crois, un truc de ce genre-là. Merci beaucoup. Et c'était pas juste, bon, c'est bon, c'était merci beaucoup. Et puis, elle m'a accompagné à ma classe et je ne l'ai pas revue après. Mais j'étais content, en fait, d'avoir réussi à faire quelque chose. C'était pas grand-chose. Je lui ai pas non plus parlé de Dieu, je lui ai pas offert une Bible ou quoi. C'était pas le lieu. Mais j'étais content, en fait, au lieu d'être animé par la chair, d'être animé par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. J'ai essayé par cet exemple, en fait, de vous montrer que parfois on est totalement incapable de faire le bien et de faire ce que l'esprit voudrait qu'on fasse. J'espère que ça vous a convaincu, et ça m'arrive encore. Hein. On est, comme on a dit en introduction, ou tout à l'heure, là, quelqu'un qui a dit, on est en marche, en fait. En marche de sanctification. Donc, c'est pas à moi de produire des choses que je n'arrive pas à produire. C'est pas forcément à vous de faire. On va voir maintenant ce que la nature humaine est capable de produire. Et là, j'espère que vous ne reconnaîtrez pas trop. Mais si vous reconnaissez un peu dans certains domaines, eh ben c'est qu'il y a encore du travail. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors, je suppose qu'il y a parmi nous des gens qui lisent beaucoup la Bible, qui lisent des commentaires théologiques aussi, et qui vont savoir ce que je vais vous dire, mais peut-être certains n'ont jamais remarqué, alors je tiens à en parler. Dans le passage juste avant, il est dit « les œuvres de la nature humaine », les œuvres que produisent la nature humaine, et dans celui-là, il n'est pas dit « les fruits de l'esprit », mais « le fruit de l'esprit ». Le fruit de l'esprit, comme pour dire qu'il n'y en a qu'un, et que ce fruit de l'esprit produit tout cela à la fois. C'est-à-dire, c'est pas une checklist qu'on aurait pu mettre avec des, vous savez, avec des petites puces là, des petits ronds. Puis on dit alors tac tac tac, et puis en gros je choisis que moi je veux l'amour, ou moi je veux la maîtrise de soi, ou j'aimerais bien avoir je sais pas quel autre que vous voudriez, la paix, la joie, comme si c'était à la carte, on prend ce qu'on veut, ou comme un enseignement sur le développement personnel. Voilà ce qu'il faut que tu produises, toi. Tu vois, tu dois produire l'amour, tu dois produire la maîtrise de soi. Pourtant, on en rêve, non ? D'essayer d'être, de faire mieux dans tous ces domaines. Mais vous remarquez ici que ce n'est pas marqué « je produis ces choses », mais c'est marqué « c'est le fruit de l'esprit ». Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, les œuvres de la nature humaine, elles viennent toutes seules. Laissez-vous aller, ne faites rien. Et puis, il y a de grandes chances que vous fassiez des choses qui ne sont pas honorables. Mais le fruit de l'esprit en vient, en fait, il vient par l'esprit. Mais on va voir juste un peu après que ce n'est pas parce qu'il est le fruit de l'esprit qu'on ne doit rien faire non plus. Pardon, je suis allé trop vite. Excusez-moi. Ah non, attendez. Je me suis trompé de touche. Ah mais non, j'ai oublié un passage. Non, mais c'est pas grave. C'était peut-être juste avant, en fait, ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, c'est ce passage-là qui dit « marcher par l'esprit ». Donc, c'est un fruit, l'esprit, qui agit en nous, mais il y a aussi marqué « marcher par l'esprit ». Donc, il y a bien, pour nous, quelque chose à faire, quelque chose à accueillir, en tout cas, de se laisser transformer par l'esprit. C'est un peu comme ce passage qui dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Vous avez peut-être déjà lu ça aussi, l'apôtre Paul le dit. « Soyez remplis de l'Esprit ». Alors, c'est à la fois un impératif, « Soyez », et puis « Remplis de l'Esprit », c'est au passif. Ça veut dire, c'est comme s'il disait « Laissez-vous remplir par l'Esprit ». C'est l'Esprit qui va vous remplir, mais en même temps, c'est un impératif qu'il faut se laisser remplir par l'Esprit. J'aimerais vous montrer aussi que Ben, parfois, dans certaines églises qui ne sont pas charismatiques, on est un peu embarrassé dès qu'on parle de l'Esprit ou du Saint-Esprit, parce qu'on se dit, ah, eux, ils prétendent, certains prétendent que c'est eux seuls qui ont l'Esprit et que les autres ne l'ont pas. Ici, le fruit de l'Esprit, en fait, c'est quelque chose qui agit en nous. À partir du moment où on est chrétien, l'Esprit de Dieu habite en nous et il agit en nous. Charge à nous de laisser prendre sa place. Dieu ne nous sauve pas pour que nous fassions plus d'efforts, mais pour que nous vivions animés par une autre vie que la nôtre. Je peux essayer de faire des efforts. Par exemple, moi, dans l'histoire que j'ai racontée, si j'avais juste tout seul essayé, je dis « Oh, je vais l'aimer », j'y arrivais pas, en fait. Il y a un moment, peut-être, être capable de dire « Je ne suis pas capable de produire ce que l'Esprit doit produire ». Et ça nous rappelle, vous l'avez vu, parce que je m'étais trompé de sens dans le diaporama, mais ça nous rappelle ce que Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si par exemple, vous luttez avec la colère, la jalousie, le manque d'amour, le manque de maîtrise de soi. J'ai cité que cela, j'ai pas prophétisé là. S'il y en a qui se sentent concernés, ne dites pas « Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais si vous luttez avec ce genre de choses, ne vous laissez pas écraser, en fait. La parole nous dit « Demeurez en Christ, marchez par l'Esprit, et marcher par l'Esprit, finalement, c'est possible pour tout le monde. C'est juste se mettre à la disposition du Seigneur, l'écouter, lire sa parole, la méditer, et puis quand il nous travaille, des fois, ça prend un petit peu de temps. On n'a pas toujours envie d'obéir. Mais il faut, à un moment, céder et dire oui, j'accepte de marcher par l'Esprit. Amen. Merci pour votre accueil.